Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Ça. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Univox, émission spéciale dédiée à la semaine créative et aux pépites. À l'occasion de la 5e édition de la semaine créative, Radio Campus Lille, en partenariat avec Pépites Lille Hauts-de-France, propose un plateau spécial autour de l'entrepreneuriat étudiant. Le Pépites Lille Hauts-de-France accueille tout étudiant ou jeune diplômé souhaitant développer son projet entrepreneurial et bénéficier d'un accompagnement de qualité. Le Pépites Lille HDF, donc Hauts-de-France, vous permet de découvrir l'entrepreneuriat, de monter, d'accélérer vos projets et de développer votre réseau. Voilà en gros le projet que nous allons développer aujourd'hui. Et si tu te poses des questions sur ton projet professionnel, tu te demandes si te lancer dans l'entrepreneuriat pendant tes études, c'est une bonne idée. Tu hésites, travailler, entreprendre ou étudier, comment réussir à concilier le tout? Tant de questions, peu de réponses, mais pas de panique, on a une heure pour cette émission qui est faite pour toi. Comprendre le parcours parfois très dense de celles et ceux qui se lancent dans la création d'entreprises en parallèle de leurs études grâce à Elena Baranowski. Découvrir et comprendre le rôle de Pépites Lille Hauts-de-France, donc avec l'équipe ici présente, et découvrir le statut national de l'étudiant entrepreneur. Bénéficier aussi de conseils, de retours d'expérience et d'informations utiles pour te faciliter le passage à l'action. Bref, c'est maintenant. Voilà, donc autour de cette table, ce micro, de Radio Campus, nous sommes dans nos studios, Radio Campus Lille, et bien les intervenants et alumni du Pépites Lille Hauts-de-France qui vont participer à cette émission, on va les présenter. Donc, Elena Baranowski, fondatrice du projet Lounès et ambassadrice de la marque Champagne Delphine Revillon, si j'ai bien compris.
C'est ça.
Voilà. Et puis, Armelle Basquin, donc, qui est fondatrice du cabinet Amarelle, il y a peut-être une correspondance avec Armelle, hein. Coach et formatrice, alors formatrice en posture entrepreneuriale et relations professionnelles, on expliquera tout ça durant cette émission, et vous intervenez donc, Armelle, dans les programmes de Pépites Lille Hauts-de-France.
Oui, c'est tout à fait ça, depuis plusieurs années maintenant, surtout sur l'état d'esprit d'entrepreneur.
Et puis donc, Evelyne M., qui est chef de projet animation de la communauté des étudiants entrepreneurs au Pépites Lille Hauts-de-France. Bonjour Evelyne.
Bonjour.
Alors Sabrina Boussadi, que je remercie d'être venue et d'avoir avec moi préparé cette émission, est responsable de la sensibilisation à l'entrepreneuriat au Pépites Lille Hauts-de-France. Bonjour Sabrina.
Bonjour René.
Univox.
Et donc vous écoutez Univox, émission spéciale dédiée à la semaine créative et aux pépites. Peut-être qu'on peut demander à Sabrina, cette semaine, quels sont ses enjeux?
Alors la semaine créative, c'est une semaine nationale, donc c'est la 5e édition de la semaine dédiée à l'esprit d'entreprendre et à l'entrepreneuriat. Donc l'objectif de cette semaine, c'est que les étudiantes et étudiants puissent accéder à des événements inspirants, à des conférences, à des rencontres avec des entrepreneurs, donc un programme très très riche proposé par les Pépites, donc tout le réseau de Pépites France, pour que les étudiants puissent s'inspirer, s'informer, trouver des idées, rencontrer des entrepreneurs, découvrir l'entrepreneuriat et pourquoi pas l'envisager comme une voie d'insertion professionnelle pour la suite.
Voilà, donc pourquoi accompagner des étudiants dans des projets de création d'entreprise? Et d'abord, est-ce qu'ils sont nombreux à les porter? Est-ce que vous les sensibilisez au fait que ce soit possible et que réussir dans ce domaine vaut bien réussir dans d'autres?
En effet, c'est le rôle de Pépites, hein. Pépites, c'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Donc, c'est un service dédié à l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat étudiant. Donc, nos missions principales, c'est de faire découvrir l'entrepreneuriat à travers la sensibilisation, des actions de sensibilisation comme notre plateau de radio aujourd'hui, comme par exemple plein de webinaires, de rencontres, de masterclass, d'événementiels type challenge. Donc on a pas mal d'événements dédiés aux étudiants pour qu'ils puissent s'imprégner de la culture entrepreneuriale et s'inspirer, mais aussi grâce au statut national de l'étudiant entrepreneur. Donc les pépites accompagnent au développement, à la construction du projet de création d'entreprise. Tout étudiant qui souhaiterait vraiment entamer un projet de création d'activité, soit associative ou entreprise, dès les premières années d'études en enseignement supérieur.
Donc il existe en France des écoles de commerce qui préparent à ça, qui coûtent très cher aussi. On peut dire que l'université a aussi ce rôle, peut-être un peu différent, avec un autre public.
Alors pour Pépite, en tout cas Pépite Lille-Hauts-de-France, c'est un Pépite donc, qui travaille en lien avec un réseau d'établissements publics et privés. Le Pépite Lille est porté par l'Université de Lille, mais au service aussi des étudiants, étudiantes issues de toutes filières, quel que soit leur niveau, leur établissement, public ou privé. Donc quel que soit, on va dire, le type d'établissement, et même si les écoles privées ont aussi cette, je dirais, chance d'avoir des incubateurs, des services dédiés aussi à l'entrepreneuriat, peut-être l'entrepreneuriat dans leur ADN et dans les formations, Pépite aussi travaille avec les écoles privées et publiques pour avoir cette possibilité, d'offrir cette possibilité aux étudiants d'obtenir le statut, d'accéder à un programme d'accompagnement complémentaire et qui vient s'ajouter à ce que proposent les écoles dans leur formation et dans les services dédiés à leurs étudiants. Donc Pépite et les écoles sont partenaires et complémentaires.
Alors j'ai connu à un moment le Clubhouse de l'université, peut-être de Lille 1 d'ailleurs, je ne sais pas. Est-ce que depuis qu'il y a l'Université de Lille, ça a changé de nom un peu pour ça, ou est-ce que voilà, il fallait trouver une formule plus large?
Alors on va dire que donc c'était un peu le hub réseau, et puis House, la maison des réseaux, c'était un peu pour mettre en relation, on va dire, ou accompagner les étudiants et développer leur réseau professionnel sur en tout cas la question de l'entrepreneuriat. Les Hub House sont une innovation, je dirais, régionale. C'était des services qui étaient implantés dans les universités de la région Hauts-de-France, qui donc avaient la mission de aussi accompagner un entrepreneuriat, mais pour un public donc très spécifique aux universités. Et le Pépite a remplacé en tout cas le Hub House au sein de l'Université de Lille. Et aujourd'hui, Pépite est un dispositif interétablissement porté par l'Université de Lille, mais plus large, qui s'adresse à l'ensemble donc des étudiants et des établissements d'enseignement supérieur de la région.
Quand on dit Pépite, on imagine forcément des talents à repérer qui doivent se faire connaître et reconnaître. Donc, est-ce que ces étudiants porteurs de projets, au départ, ils ont une façon de présenter leur projet qui permet de convaincre votre équipe?
Alors les étudiants, et je pense que Elena pourra en parler et développer un peu ce sujet-là, les étudiants, on va dire, dès qu'ils ont une idée d'entrepreneuriat qui commence à émerger, en tout cas qui est formalisée, et dès qu'ils sentent qu'ils sont prêts à aller plus loin et à demander de l'aide et un accompagnement, ils peuvent tout de suite contacter le Pépite pour passer devant ce qu'on appelle des comités d'engagement. C'est un mini-jury, justement, qu'il faudra convaincre, expliquer en fait l'idée du projet de création d'entreprise, mais aussi prouver aussi la motivation et être au clair par rapport à ses besoins et où on en est, où est-ce qu'on veut aller. Donc ça, c'est pour les porteurs de projets, mais Pépite n'est pas seulement une structure d'accompagnement à la création d'entreprise, c'est ouvert aussi aux étudiants qui s'interrogent sur le sujet, donc qui ont besoin d'avoir un premier niveau d'information et qui se disent « je ne sais pas par où commencer, je n'ai pas d'idée, mais ça m'intéresse, ça me passionne, cette question d'entrepreneuriat. » Ils peuvent aussi venir au Pépite.
Evelyne, être entrepreneur, c'est inné ou acquis?
Alors là, il faudra demander aux étudiants, mais en tout cas, en étant proche de la communauté étudiante entrepreneur, être entrepreneur, ce n'est pas inné, ça s'acquiert. Je pense qu'il y a des compétences qui s'acquièrent, qui se développent, et c'est pour ça qu'on les accompagne dès le début de leur parcours post-bac. Donc de la licence au doctorat. Et donc, c'est des compétences qu'on développe, que les étudiants développent en tout cas pendant leur cursus universitaire.
Est-ce que parmi ces étudiants, il y a déjà des étudiants dont les parents sont chefs d'entreprise et qui disent bah, « vas-y, continue » ou est-ce qu'il y a vraiment de nouvelles générations qui, d'un seul coup, découvrent des possibilités différentes ?
Il y a vraiment une diversité de profils. Il y a des étudiants qui, effectivement, ont une famille ou un entourage qui ont entrepris. Mais il y a aussi des étudiants qui entreprennent alors qu'ils n'ont pas forcément l'entourage qui l'accompagne. Donc c'est vraiment à la motivation de l'étudiant.
Univox.
Donc on va parler d'une expérience aujourd'hui qui est l'objet de tous nos regards et notre attention, bien sûr. Hein. Donc peut-être, Elena Baranowski, vous pourriez nous dire pourquoi donc cette idée que vous avez eue de créer la marque et peut-être aussi la technique qui va avec cette marque Lounès, hein, vous avez été inspiré par qui ?
En fait, Lounès, donc c'est une coque de téléphone avec un système de faux fond pour y ranger sa plaquette de médicaments ou sa carte ou un préservatif. En fait, on peut y ranger tout ce qu'on veut. L'idée m'est venue parce que je me déplaçais pas mal et j'oubliais tout le temps ma pilule contraceptive, sachant que c'est quelque chose qu'on prend de façon donc quotidienne et toujours à la même heure. Et donc j'ai voulu m'acheter cette coque de téléphone où on pouvait ranger entièrement sa plaquette. Et j'avais beau chercher, j'ai vu que ça n'existait pas et donc je me suis dit, si ça n'existe pas, c'est à moi de la créer.
Ben voilà, donc une idée utile pour beaucoup de personnes, en général des femmes quand même.
La coque peut aussi bien fonctionner pour prendre un antihistaminique, par exemple, qui est à prendre au quotidien, ou alors un traitement. En fait, l'idée, c'est vraiment de diminuer au maximum l'oubli médicamenteux. Donc, effectivement, ça sera très utile pour les femmes qui prennent la pilule contraceptive. Après, pour toute personne qui ont un traitement quotidien, ça leur servira très bien également.
Voilà, donc ce dispositif existe déjà, il fonctionne.
Là, on travaille sur les derniers prototypes, donc on va bientôt commander, je dis « on », parce que je travaille avec une agence sur le parc Eura Santé qui s'appelle RD2 Innovate. Et donc là, on est en train de terminer toute la partie R&D pour les derniers prototypes, et donc on va pouvoir commander les moules et commencer la production.
Là, vous m'avez fait voir un exemplaire, sûrement un prototype avec une épaisseur qui n'est pas beaucoup plus importante qu'une coque de téléphone normale. Comment vous gérez ?
On est vraiment sur un fond qui fait 0,6 mm. Donc, c'est vraiment très fin. Et en fait, ça n'ajoute pas d'épaisseur. L'idée, c'était de trouver un modèle qui peut aussi bien donc protéger votre téléphone que protéger votre santé. Donc, avec des bords qui vont revenir sur l'écran devant, qui vont pouvoir protéger les caméras arrière. Et que ça soit le plus qualitatif en termes de matière, que ça soit agréable au toucher et qu'on ait tout de même une coque qui soit élégante et donc esthétique.
Alors, il existe beaucoup de téléphones de formats différents. Comment vous gérez cette diversité ?
Alors, effectivement, c'est toute la complexité de mon projet. Il y a de plus en plus de modèles de téléphones. Donc, c'est vrai que j'ai dû me concentrer là sur différents modèles pour pouvoir faire les moules également. Donc je vais jouer après avec la chaleur pour pouvoir, d'après une empreinte, pour pouvoir toucher plusieurs modèles. Mais c'est un peu la complexité de mon projet, effectivement.
Voilà, donc ces coques, je pense que tous ceux qui ont un appareil de téléphone mobile ont forcément adapté une coque, parce que sans ça, c'est quand même risqué.
Là, je vise pour commencer des coques Samsung et Apple. Et par la suite, me diversifier et pouvoir toucher le plus de personnes possible et répondre à la demande au maximum.
Donc vous avez défini un petit peu des besoins, vous-même en tant qu'intéressé au départ, et évalué que beaucoup de personnes seraient dans votre cas, donc vous extrapolez un peu par rapport à une demande potentielle. Vous avez fait une sorte d'étude de marché ?
Tout à fait. Aujourd'hui, la pilule contraceptive est le moyen de contraception le plus utilisé. L'oubli médicamenteux, aujourd'hui, est vraiment une catastrophe et du coup, a des vraies conséquences sur la santé des femmes. Après, j'ai eu également des demandes par rapport à des personnes qui commençaient un traitement à vie, des personnes même très jeunes. Et à côté de ça, je vais aussi avoir des personnes qui veulent juste mettre leur carte bancaire ou mettre leur argent de poche ou alors mettre des cartes de visite. Donc en fait, chacun après identifie ses besoins par rapport à la coque. Moi, je montre une direction, je la propose par exemple pour la pilule parce que ça vient de mon histoire. Après, chacun l'utilise et l'imagine pour ses propres besoins.
C'est un petit peu un compartiment secret, en fait, aussi.
C'est exactement ça. C'est Lounès, ça vous appartient, en fait, ce que vous y mettez dedans.
Donc, Lounès, peut-être qu'on peut épeler ce nom.
Donc, c'est Lounès, L-3-O-N-E-S.
Voilà, donc un nom bon, qui sonne bien, on va dire. Est-ce qu'il est, au départ... évalué dans sa détermination par une équipe qui dise bah, « ça c'est bien, vous avez fait des choix autour de plusieurs propositions ».
Initialement, Lounès en fait n'était pas écrit de cette façon-là. Lounès était écrit L-U-N-E-S, comme lundi en espagnol. Mmh. Et en fait, ça fait plus de 8 ans que tous les lundis, avec ma meilleure amie, on a l'habitude de se retrouver le soir, peu importe qu'elle soit... à l'autre bout du monde, on s'appelle. Et donc, quand je lui en ai parlé, l'idée d'appeler ça Lounès est venue directement. Et après, on avait fait aussi un parallèle entre Lounès, ça montre le quotidien, c'est un jour de la semaine. Après, le cycle menstruel, c'est aussi relié au cycle lunaire, donc ça faisait aussi sens. Et finalement, beaucoup de personnes prononçaient Lounès lune, et Lounès... n'était pas non plus disponible. Donc je suis partie sur Lounès avec 3 O, mais les 3 O représentent aujourd'hui les 3 petits points qui peuvent être une part de mystère. Vous voyez, quand vous finissez votre phrase par 3 petits points, on ne sait pas trop ce que ça veut dire derrière. Ben, on ne sait pas trop ce qu'il y a finalement derrière cette coque. Et donc, ça faisait sens que Lounès devienne Lounès avec 3 O.
Donc Lounès avec 3 O, c'est maintenant déjà une marque déposée ?
Tout à fait.
Donc c'est compliqué le parcours du combattant pour déposer une marque ?
En fait, c'est pas forcément compliqué de le faire. Il faut savoir être bien accompagné. Et je pense que je répéterai plusieurs fois dans cette émission, l'accompagnement vraiment permet de pouvoir bien avancer dans son projet. Donc moi, je me fais accompagner par Pépite et par d'autres incubateurs, mais également par quelqu'un de l'INPI. Et donc, il m'a aidé pour déposer ma marque. Et par contre, c'est un petit peu long parce qu'il faut que ça soit validé. Et... donc voilà. Mais bon, en tout cas, c'est déposé.
Donc, on peut déposer la marque avant que l'objet soit produit.
Tout à fait.
Oui. C'est le concept, l'idée hein, qui compte d'abord.
C'est ça.
Et après, comment ça se développe. Donc, au niveau du développement de technique, on va dire, comment vous avez travaillé ? Est-ce que dans la région, vous avez pu faire appel à des sociétés compétentes hein, ou est-ce qu'il faut aller à l'extérieur ?
En fait, on a différents choix. On peut s'adresser auprès des écoles, on peut se rapprocher de bureaux d'études. Moi, je me suis d'abord rapprochée d'un Fab Lab pour faire le premier prototype. Et ensuite, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, je me suis rapprochée de l'agence RD2 Innovate, qui est l'agence avec laquelle je voulais travailler depuis le début, dès la première minute où j'ai eu l'idée de mon projet. Et donc, je suis arrivée un matin en leur disant, bah voilà, je suis étudiante, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai une super idée. Et aujourd'hui, il m'accompagne dans chaque prototype, dans chaque idée, dans le design, et là pour les moules, pour la production. Donc, voilà, donc aujourd'hui, je travaille avec cette agence-là, mais à chacun son projet et chacun a des besoins différents sur la partie recherche et développement.
Donc à Lille, il y a EuraSanté, qui est très célèbre maintenant. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'y installent et de la recherche qui s'y fait également. Comment vous avez eu l'idée de vous y implanter et est-ce que vous avez sur place une sorte de richesse, d'échange possible avec toutes ces personnes qui y travaillent ?
En fait, je ne suis pas en contact direct avec EuraSanté. C'est l'agence avec RD2 Innovate qui est sur le parc EuraSanté. Mais ils ne sont pas reliés directement. Je ne suis pas tout le temps avec eux, avec l'incubateur en lui-même. J'avais déjà fait auparavant un projet avec EuraSanté qui s'appelle Hipster, qui m'avait permis de proposer une problématique à des étudiants qui venaient de domaines différents, de la communication, du commerce, de pharmacie, et qui, le temps d'un week-end, avaient répondu sous forme de reco à une problématique. Et donc, c'est mon contact que j'ai eu avec Eura Santé. Sinon, je ne suis pas tout le temps avec eux. Je ne suis pas incubée là-bas.
Est-ce que quand on est créateur d'entreprise comme vous, on a déjà à l'idée plusieurs projets? Donc là, on a parlé de cet outil très utile qui peut donc permettre de cacher ou de mettre en réserve des choses nécessaires. Mais est-ce que vous pensez déjà à d'autres projets, d'autres objets que vous créeriez en fonction de demandes, de besoins que vous identifieriez?
En fait, je suis un profil plutôt créatif, je dirais. Et donc, j'ai toujours un milliard d'idées qui fusent. Là, je me concentre sur Lounès. Mm-hmm. Je développe Lounès au maximum. Et par la suite, pourquoi pas vivre d'autres aventures. Mais là, pour le moment, je me concentre sur Lounès.
Donc, quand vous déposez une marque, vous pensez uniquement, enfin, vous devez uniquement spécifier le caractère spécifique de votre projet là, ou vous pouvez déjà anticiper d'autres développements ou d'autres conceptions?
Donc, j'ai l'idée de développer Lounès au maximum et de créer des choses qui seront reliées à Lounès. Mais si je veux passer à un autre projet, ça sera vraiment dans un second temps. Je ne pense pas créer et innover deux idées en même temps.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Voilà, donc maintenant on va voir l'accompagnement. Alors vous avez cité un petit peu les personnes qui vous ont épaulé. On peut peut-être demander maintenant une spécialiste et qui est donc Armel Basca, Marie. Votre cabinet, en fait, il aide ces projets déjà au démarrage, dans l'idée, ou une fois que déjà ça a été un peu validé d'une certaine manière par Pépite, par exemple?
Oui, j'interviens plutôt après. En fait, dans ma carrière, j'ai accompagné des centaines de porteurs de projets, et ça allait depuis l'idée jusqu'au business plan, jusqu'à vraiment tout jusqu'au financement. Et l'important dans un dossier, dans un projet, c'est en majorité le porteur de projet. Alors parfois on dit 70%, mais c'est vraiment la personnalité, la façon dont la personne va incarner son projet. On entend Elena, on entend cette énergie, on entend cette envie, cet enthousiasme. Et c'est ce qui fait la différence. Et donc mon choix a été plutôt, dans le cadre de mon cabinet, d'accompagner des dirigeants porteurs de projets ou aussi dans leur vie d'entrepreneurs, plus sur la posture, sur leur façon de réagir, d'agir, sur ce qu'on appelle l'esprit d'entrepreneur, le mindset, garder le bon état d'esprit. Donc ça, il y a plusieurs facettes et l'idée c'est de lever les freins, de travailler sur des limites. Alors les limites limitantes, ça c'est du domaine du coaching, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui sont aidantes, puis il y a des choses qui nous freinent. Et d'accompagner, alors quand on est sur un public plus jeune, il y a des freins, comment je ferais pour être financée, est-ce que je suis pas trop jeune? Tout à l'heure on disait, si je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs, moi je commence en disant, on ne naît pas patron, on le devient. C'est vrai que culturellement dans notre région, on avait beaucoup d'entreprises, on disait les grandes familles, les familles du Nord. Et c'était plus compliqué si on n'était pas issu de ce genre de famille pour accéder à l'entrepreneuriat. On a eu beaucoup de chance parce que bon, je suis dans ce domaine depuis quelques années maintenant, de voir une volonté de la région de faire émerger, quelle que soit l'origine sociale, quelle que soit le... Quelquefois, on manque de financement, et bien il y a des dispositifs pour aller accompagner le financement. Et ça a été une réelle volonté. Et aujourd'hui, on voit ce succès. On a une créatrice, donc Elena est une femme. Il y a quelques années, pour une femme, c'était compliqué. On vous demandait que faisait le conjoint pour voir si on pouvait valider le projet. Aujourd'hui, c'est... Alors moi, j'ai les derniers chiffres que j'avais dans un réseau sur lequel on accompagne le financement, c'est 40% de femmes porteurs de projets. Tout ça, c'est vraiment des belles avancées. Et sur les jeunes entrepreneurs, là aussi, il y a une vingtaine d'années, on ne parlait pas d'entreprendre à 20 ans, ça ne faisait pas sérieux. Il y avait plein de freins, sauf si vous veniez d'une famille d'entrepreneurs où là, on vous aidait, on vous accompagnait, on vous guidait. Et là, les programmes comme Pépite, c'est une richesse. Alors oui, il y a le mot Pépite en plus. Et j'adore voir ces projets qui émergent. Il y a beaucoup d'innovations, mais pas que. Il y a beaucoup de projets qui sont portés vers le développement durable, vers le souci de la planète, de la santé, de l'humain. Et ça donne, pour moi, qui suis un peu plus âgée qu'Elena, n'est-ce pas, c'est de dire que c'est bon pour l'avenir. Et pour moi, c'est très optimiste. Et d'être accompagnée, c'est rassurant. Pépite ne fait pas tout. Il y a, au début, il y a quelque chose qu'on a en soi, qu'on a envie. Mais ce qui est bien, c'est que juste la petite graine qui est là et qui a envie, elle peut être portée, elle peut être arrosée, on peut l'aider à grandir. Et ça, c'est vraiment très vivifiant, très encourageant, très enthousiasmant.
Donc la région de France met souvent en valeur des créateurs d'entreprises. Enfin, moi, je vois des palmarès tous les 15 jours. On met à l'honneur des gens qui ont l'idée d'entreprendre et puis aussi qui se sentent aspirés par ces besoins actuels. Et je pense que dans la région, il y a des projets qui s'appellent un peu Rêve 3. Je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être qu'on peut le redéfinir. Hein, voir en quoi ces projets qui seraient plutôt dans le domaine du développement durable, du sociétalement correct, etc., ont un avenir, se développent et ont des porteurs, comme on vient de l'entendre.
Il y a une belle prise de conscience. Il y a vraiment quelque chose. Au début, c'était des petites graines. Ça commençait à émerger. Moi, à chaque fois que je participe à des concours, il y a des concours pour les jeunes créateurs, il y a des concours pour des personnes de tous horizons, de commencer à avoir des programmes remarquables, de commencer à avoir des entreprises et des entrepreneurs avec un E au bout si c'est une femme ou sans si c'est un homme, qui ont pris en compte l'avenir de la planète, qui ont dit on peut faire quelque chose. C'est un peu le colibri de Pierre Rabhi, c'est chacun sa part. Et c'est très beau de voir qu'il y a eu cette prise de conscience, qu'au début c'était quelque chose de frémissant, et que là ça fait une embellie, et c'est à tous les niveaux, donc maintenant ça intègre les grandes entreprises, et ça a émergé. Moi j'ai eu cette impression que, oui, il y avait des idées qui venaient dans voilà, au niveau de gouvernemental, des envies, des choix, des orientations, et ça a été très bien approprié par les jeunes générations. Et cette sensibilisation, elle a pris. Et moi, j'étais très étonnée à chaque fois qu'il y avait un jury de jeunes qui voulaient créer leur entreprise. Alors, il y avait des reprises d'entreprise. Il y avait déjà quand même dedans l'envie d'y mettre quelque chose de plus qui était en rapport avec la planète ou avec l'économie sociale et solidaire. Et puis, petit à petit, des tas de projets qui sont venus se greffer comme ça, qui sont venus prendre forme. Et c'était de plus en plus. Et ce qui, au départ, était frémissant est devenu maintenant une belle prise de conscience. Et c'est chouette parce que c'est les nouvelles générations qui, quelque part, ont poussé aussi des gens qui étaient plus ancrés sur « j'utilise tel matériau, pourquoi changer, pourquoi faire autrement, les habitudes ». Et là, ça a bousculé. Et de dire « attendez, en plus, on a 20 ans et on va la créer, notre boîte, on va la créer, notre entreprise, avec nos valeurs dedans ». Les valeurs, le sens, ce qu'on donne à son projet, c'est ça qui est le plus important.
Voilà, donc épauler, favoriser les projets qui aussi correspondent à des enjeux de société, à ce que sera l'avenir. Et avec ces jeunes, mais c'est eux quand même qui doivent définir l'avenir, donc c'est important.
C'est à la fois important, mais il ne suffit pas de le dire. Quelquefois, on a beau dire, surtout quand on parle, alors, en tant que parent, quand on s'adresse à nos enfants, on leur dit, tu sais, c'est important. C'est pas pour autant qu'il y a une prise de conscience. Là, ça s'est approprié d'une autre façon. C'est la somme de plein d'actions qui ont fait qu'il y a eu ça. Et oui, c'est important, c'est fondamental. Et de dire que maintenant, ça y est, c'est enclenché, c'est... Je disais, c'est encourageant, mais là, c'est plus qu'encourageant. Moi, je sors toujours de ces rencontres avec les jeunes entrepreneurs, reboostés. Je disais le mot optimiste, mais oui, optimiste en me disant, bien sûr qu'il y a des inquiétudes, on peut toujours voir ce qui ne va pas. Moi, je n'ai pas envie de voir ça. J'ai envie de voir ce qui frémit et ce qui est maintenant est plus que frémissant, qui est cette montée en puissance des projets avec un enjeu sociétal, environnemental, pour la planète, puis pour le bien-être des gens, la prise de conscience de l'humain aussi.
Elena Baranowski, donc votre intérêt pour le développement d'une entreprise, hein, est-ce que au départ, à l'université, c'est quelque chose que vous avez étudié, est-ce que l'université vous a apporté des bases?
Alors pas vraiment, parce qu'initialement, je voulais devenir infirmière, donc vraiment rien à voir. Et je me suis rendu compte que le soin n'était pas pour moi, mais que l'humain et le relationnel étaient vraiment ce qui m'inspirait, ce qui me stimulait. Finalement, je suis partie dans la communication et j'ai fini, parce que j'ai eu l'idée de l'UNES, à partir à faire un master dans l'entrepreneuriat, l'innovation et business développement. Mais initialement, mon grand rêve n'était pas d'être entrepreneur.
D'accord. Parce qu'on dit souvent qu'un projet qu'on n'a pas en tête à 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est plus dur de le réaliser. Est-ce que justement, dans un parcours d'étudiant de base, on va dire, d'un seul coup, il y a des déclencheurs? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe?
J'aime bien ramener les gens à leurs rêves d'enfant. Ça ne veut pas dire que tout rêve est réaliste, mais tout rêve est réalisable s'il devient réaliste. Et d'aller rechercher ce qu'on avait, ce qu'on aimait, ce qui est au fond de soi quand on est enfant, lui donner une portée entrepreneuriale, et là, c'est là où l'accompagnement prend tout son sens, de dire qu'est-ce que je fais de ce qui a du sens pour moi, de ce qui est dans mes tripes, de ce qui est le plus, ce qui est fondamental. C'est ça qui va me donner du sens, c'est ça qui va m'aider, c'est ça qui va me porter, c'est ça qui va me donner mon état d'esprit d'entrepreneur. Et donc, c'est ramener à son rêve, c'est-à-dire ramener à ce qu'on a envie de faire, ramener à ce qui a du sens pour soi, et dire toutes ces barrières qu'on a pu mettre en route en disant « c'est pas pour toi, t'as pas assez d'argent, t'es trop jeune, tu viens pas d'un milieu entrepreneur ». Toutes ces limites-là, c'est les faire sauter pour revenir au cœur du projet, au cœur de ce que la personne veut faire. Et l'envie d'entreprendre, tout petit, ça peut venir. Après, ça peut être brimé un peu, hein, mais ça peut vraiment revenir. Et c'est pour ça que c'est fondamental et que c'est intéressant, des programmes comme Pépite, des sensibilisations comme cette semaine, donc où on parle de l'entrepreneuriat, où les uns les autres peuvent communiquer, où les étudiants entre eux peuvent dire, tu sais, moi, je l'ai fait. Regarde comment j'ai fait. C'est, dire que tout est facile, ce serait pas vrai, parce que rien n'est simple. Si c'était simple, ce serait peut-être d'ailleurs pas très drôle. Et par contre, c'est possible, c'est ça qui est intéressant.
Donc on est à un moment donné où l'argent devient peut-être un peu rare, enfin on nous fait remarquer qu'il n'y a plus beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Et justement, l'entrepreneuriat, c'est quand même l'idée de dégager une nouvelle énergie au travers de jeunes notamment, hein, et des projets porteurs d'avenir et aussi économiquement viables et même qui ramènent de la valeur ajoutée.
Bah, je voulais dire que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est avant tout une aventure passionnante. C'est une chance de créer quelque chose de nouveau, c'est la liberté de concrétiser ses propres idées, de suivre sa vision et aussi de choisir son destin professionnel. C'est aussi un défi stimulant qui permet d'acquérir des nombreuses compétences, de repousser ses limites et de réinventer sans cesse. Et effectivement, c'est aussi une opportunité de contribuer à la société, de répondre à des besoins et d'innover dans son domaine.
Donc au-delà de Pépite, est-ce qu'il y a des dispositifs, pourquoi pas même des fondations, qui permettent de développer des projets d'entrepreneuriat?
Oui, alors je vais parler pour une partie déjà par rapport à la question qui était posée de la valeur ajoutée. Comme tout à l'heure le disait Sabrina, ça peut être un projet associatif, ça peut être un projet d'entreprise. Et comme vous le disiez à l'instant, c'est-à-dire c'est de dire aussi, ça doit créer une valeur. Tout business model, qu'il soit sous un mode associatif ou un mode entrepreneurial, doit créer de la valeur, sinon ça ne s'appelle pas une entreprise ou ça c'est pas un projet entrepreneurial. Donc pour ça, on ne naît pas forcément avec beaucoup de fonds, on n'a pas forcément beaucoup d'argent dans son milieu. L'idée, ça va être aussi d'aller chercher des financements. Et là, le dispositif Pépite va mettre en relation, on va rester sur le public des jeunes entrepreneurs, mais chaque public a ses modes de financement, pour venir soit abonder un apport de financier qu'on a au départ, soit faire des campagnes de crowdfunding, soit aller vers les acteurs, et ils sont nombreux. Encore faut-il les identifier, selon que j'ai tel âge, que je suis un homme, une femme, que je viens de tel quartier de la ville, etc. Il y a des dispositifs qui existent. Et là, Pépite avec le dispositif d'accompagnement, va pouvoir aider à se retrouver dans quelque chose qui au départ peut paraître un petit peu ubuesque, ou de dire mais par où je commence, comment j'y vais, si j'ai besoin d'argent. Donc ça ne doit pas être un frein. Et là, je vais peut-être laisser quelqu'un de chez Pépite, Sabrina.
Oui, bon. Alors Sabrina, est-ce que dans toutes les expériences que vous avez soutenues, qui sont maintenant sans doute des projets en action, vous avez la mémoire de gens qui ont particulièrement brillé et réussi?
Alors, quelque part, ils réussissent tous. Ils réussissent en tout cas de franchir le pas, de passer à l'action, de venir demander de l'aide à Pépite, d'intégrer un réseau. Quelque part, nous, pour nous, de franchir le pas et de venir, ne serait-ce qu'à un programme de sensibilisation, à une conférence, c'est que l'étudiant, il est en train de se mettre en action et d'aller vers une étape concrétisée par rapport à l'entrepreneuriat. Quelque part, ils brillent tous pour nous du moment où, voilà, où ils sont en mode action et ils passent à l'action par rapport à la question de l'entrepreneuriat. Je voulais rajouter que Pépite, c'est aussi intégrer un réseau, intégrer une communauté d'entrepreneurs dont fait partie Elena et bien d'autres. Ils sont 260 aujourd'hui étudiants entrepreneurs ayant bénéficié du statut national de l'étudiant entrepreneur. Donc une communauté très diversifiée avec des projets allant de, comme disait Armel, de l'associatif, en passant par la micro-entreprise, jusqu'à la start-up innovante. Donc intégrer Pépite, c'est intégrer aussi ce réseau, échanger peut-être des conseils, des contacts, s'entraider dans le cadre de nos programmes aussi d'animation de la communauté qu'organise Emeline. Elle pourra nous en dire quelques mots.
Alors justement, Emeline, est-ce qu'il y a des rencontres, peut-être des échanges d'expériences de ceux qui ont, il y a 2, 3, 4 ans, monté un projet qui réussit et transmettre, pas forcément ce projet, mais l'appétit d'en réaliser d'autres?
Effectivement, au sein du Pépite, on souhaite favoriser, faciliter l'entraide entre les étudiants entrepreneurs. Donc, entre les étudiants qui viennent de différents établissements, que ce soit l'université ou d'autres écoles du territoire, on essaye vraiment de créer du lien entre ces étudiants, mais aussi avec l'écosystème entrepreneurial donc qui existe sur la région, qui est très riche.
Il y a des rencontres qui sont réalisées régulièrement.
Oui.
Cette semaine aussi, qu'est-ce qu'elle a comme ambition, cette semaine spéciale, hein, dédiée à la semaine créative et aux pépites? Mm-hmm. Qu'est-ce que vous en imaginez qui va en ressortir?
La semaine créative, elle est portée au national par le ministère de l'Enseignement supérieur. Pendant une semaine complète, on met à disposition des conférences, des webinaires sur l'esprit d'entreprendre pour les étudiants entrepreneurs, mais aussi ceux qui s'intéressent simplement à la thématique. Toutes ces conférences sont gratuites. Elles sont disponibles pour toute personne qui s'inscrive via notre site internet, Pépite France, Pépite c'est l'île de France aussi. Et donc, tout est accessible. On fait également, du côté de l'île, du Pépite l'île de France, des rencontres thématiques. Et donc, c'est à cette occasion, lors de cette semaine, qu'on va organiser un format qu'on aime bien, les after-work. Donc, c'est des after-work après les études, où les étudiants peuvent se retrouver entre eux et rencontrer des porteurs de projets inspirants de l'île. Donc, on fait intervenir des profils qui peuvent témoigner de leur parcours, parfois jeunes, parfois un peu plus aguerris. En tout cas, le but, c'est de se rencontrer dans des moments conviviaux tels que ces after-work.
Pépite Hauts-de-France, quel est son terrain d'action? C'est Hauts-de-France ou ça peut aller plus loin ou moins loin? Comment vous voyez votre dynamique, votre onde porteuse?
Le dispositif Pépite Lille Hauts-de-France, donc c'est surtout de la région. Nous, on est sur les territoires de Lille et de Valenciennes. Et ensuite, il y a un second Pépite dans la région qui est le Pépite à Desus, qui va de la région, enfin les communes autour de Amiens jusqu'à Dunkerque et l'Artois. Voilà.
Voilà. Est-ce que vous avez un lieu particulier où vous aimez faire se rencontrer soit les jeunes entrepreneurs, les pépites, les pousses, les jeunes pousses, mais aussi des gens qui ont des expériences à leur apporter? Il y a des locaux particuliers?
Alors nous, pour le Pupitre, on est présents sur les trois campus de l'Université de Lille, donc à Lille-Moulins, à Cité Scientifique ici, et au campus de Pont-de-Bois. Donc nous, on a une proximité avec les étudiants de l'Université de Lille. Après, on est mobile et on est mobile sur tout le territoire. Donc on peut être amené justement avec Sabrina à se déplacer sur les différents établissements, que ce soit au centre-ville de Lille, Caroubet. Voilà.
Et on a aussi un partenariat avec l'espace de coworking qui est le Bazar Saint-Sau, où justement on réserve des places. Donc Pépite réserve des places pour des étudiants entrepreneurs pour qu'ils puissent bénéficier d'espaces de travail, en tout cas dédiés à leur projet, au-delà des espaces de formation, donc les établissements où ils ont cours. On a un partenariat aussi avec ce qu'on appelle le Fab Lab, l'ancien Tech Shop qui est devenu Lead, pour tout justement projet maker où il y a besoin, un peu comme pour Elena, de prototyper des créations. Et tout ça, c'est pris en charge par Pépite et mis à disposition des étudiants. Donc, c'est des ressources supplémentaires vraiment pour faciliter les premières étapes de la création d'entreprise. On a un partenariat aussi avec une agence spécialisée en comptabilité et finance pour amener un appui, un soutien et un accompagnement vraiment spécifiquement dédié aux questions financières. Et donc, c'est des ressources, comme le précisait Evelyne, que ce soit les temps de rencontre, d'échange, les moments conviviaux, les formations, les conférences, les programmes d'accompagnement, tout ça, c'est pris en charge et gratuit pour l'étudiant, justement pour qu'il puisse en bénéficier dès les premières années d'études supérieures et gratuitement, donc pour faciliter l'accès à la création.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Alors, pour les auditeurs qui nous ont rejoints depuis le démarrage de cette émission, sachez que vous écoutez Univox, une émission spéciale dédiée à la semaine créative et aux pépites, une production de Radio Campus Lille en partenariat avec Pépites France et Radio Campus France. Et donc, merci Sabrina Boussadi de m'avoir permis de préparer cette émission pour qu'aujourd'hui elle se concrétise et elle donne de l'énergie à ceux qui sont à l'écoute. C'est un peu l'objet, hein, de donner... peut-être de rassurer certains qui hésitent ou de conforter des projets imaginés et pour que les gens, les étudiants puissent développer des projets. Est-ce que ça concerne des étudiants jeunes, mais aussi d'autres qui seraient arrivés plus tard en formation ?
Le statut national de l'étudiant entrepreneur n'a pas de limite d'âge. Donc, il est ouvert à tout étudiant, quel que soit l'âge, la formation, le niveau d'études. Il y a aussi une particularité du Pépite qui donne la possibilité d'accéder à un diplôme d'établissement qui s'appelle le diplôme de l'étudiant entrepreneur et qui permet par exemple à un jeune diplômé qui est passé à côté du Pépite et qui se révèle avoir une envie d'entreprendre, en tout cas une idée entrepreneuriale à l'issue de sa formation et qui se dit « mince, je suis diplômé, je suis passé à côté du Pépite, j'ai pas pu en bénéficier ». Pépite peut aussi donner accès à ce diplôme de l'étudiant entrepreneur qui lui permet encore de prolonger son cycle de formation grâce à ce diplôme où il se réserve une année entière réservée au développement et à la construction de son projet entrepreneurial. Et à la fin, il le valide avec en plus un diplôme qui peut être valorisé dans son CV.
Voilà, donc on peut imaginer des personnes qui ont déjà une activité professionnelle qui ne soit pas dans l'entrepreneuriat et qui, à un moment donné, disent « tiens, ce serait une bonne idée à la fois que je me reforme » et que je crée une entreprise sur une idée que, dans leur parcours, ils ont d'un seul coup imaginé, parce que la vie fait qu'on puisse avoir des idées nouvelles. Hein. Donc, on peut imaginer comme une voie de reconversion, l'entrepreneuriat ?
Alors, oui, beaucoup de projets émergent après une expérience salariale. Et puis, vous avez des gens, justement, qui ont toujours eu un rêve. Et puis, ils ont suivi un cursus bien particulier. Et un jour, ils disent, mais c'est pas ça que je voulais faire. Et ce qui est vraiment beau aujourd'hui, c'est de dire que tout est possible. À n'importe quel âge, on peut créer. À n'importe quel âge, on peut reprendre un parcours de formation qui va initier ce genre de projet. Et voilà, quoi, de dire, on peut vraiment aller plus loin dans son idée, de la conforter. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir... les réseaux d'accompagnement, le réseau Pépite. Il y en a d'autres, parce que si quelqu'un entend ça et dit « moi, je rentre pas dans cette case-là », il en existe pour des gens qui ne soient pas des étudiants entrepreneurs. Par contre, c'est très riche de possibilités.
Donc, en France, je ne sais pas comment on peut se situer par rapport à d'autres pays où on fait peut-être plus confiance à l'expérience des gens, à leurs idées, qu'au cursus universitaire? Est-ce que c'est en train d'être modifié, corrigé?
Les mentalités évoluent. Moi, pour avoir rencontré des jeunes issus de communautés d'autres pays, d'Asie, ou de, qui a 20 ans créé il y a quelques années, et c'était très étonnant. Enfin, moi, ça m'interrogeait, quoi. Je me disais, mais comment vous faites? Et ils me disaient, bah, nous, si à 20 ans, on n'a pas créé, on a loupé notre vie. C'était pas du tout dans l'air du temps en France. On n'était pas pris au sérieux si on était trop jeune. Là, maintenant, on a vraiment des jeunes qui créent leur entreprise. Et puis, l'expérience de l'entrepreneuriat peut servir en intrapreneuriat. C'est-à-dire qu'on peut très bien mettre ça à disposition pour vivre ça dans une entreprise et utiliser ces compétences-là de l'entrepreneur au sein d'une entreprise et donc pouvoir le valoriser de cette façon-là. Et sans doute après, peut-être revenir à l'entrepreneuriat.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Voilà, donc Pépite Lille Hauts-de-France est à la disposition hein, des étudiants qui veulent découvrir l'entrepreneuriat, de monter ou d'accélérer des projets et aussi de développer des réseaux. Donc on en a un peu parlé tout à l'heure, la notion de famille, d'environnement, de réseau, forcément. Certains sont peut-être plus au départ avantagés que d'autres, mais le fait que vous vous organisiez en communauté, on va dire, ça permet de créer aussi un autre type de réseau. Donc ça compense ou il faut encore beaucoup faire avancer les choses?
Tout à fait, hein, j'ai envie de dire que le Pépite est là justement pour montrer aussi des modèles, pour montrer des exemples de réussite, en tout cas des exemples qui racontent des histoires de parcours entrepreneuriaux. On ouvre aussi les portes des partenaires, on a des référents entrepreneuriaux, on va dire, dans les différentes structures d'accompagnement, que ce soit les incubateurs, on avait cité les incubateurs, donc c'est des structures d'accompagnement également à la création d'entreprises, et parfois orientées innovation et par thématique. On a des partenariats avec la Chambre de commerce et de l'industrie de Grand-Lille, on a des partenariats avec les boutiques de gestion. Tout ça, c'est tout l'écosystème, en fait, que ce soit de l'accompagnement, de l'incubation, de l'hébergement des projets de création d'entreprise, ou même on avait parlé des acteurs de financement. On a aussi des partenariats avec des financeurs. Et donc, en fait, Pépite vient pallier éventuellement ce manque de contacts, de réseaux, de ne pas savoir vers qui se tourner. On a eu une porteuse de projet récemment qui avait un super projet de ferme éducative et donc qui venait me voir à la fin d'une sensibilisation pour me dire « Oui, mais en fait, j'y tiens vraiment, ça fait un moment que je veux créer ma ferme éducative ». Ma ferme pédagogique. Et puis, par contre, moi, je n'ai vraiment pas de contact, je n'ai pas de réseau, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas si Pépite, du coup, peut m'accueillir. Et je lui ai expliqué que tout à fait, lorsqu'on avait juste une envie, une forte motivation, une idée, que Pépite était là en tremplin, en ressources et pour accompagner. N'attendez pas que ce soit construit, formalisé, clair et clairement détaillé pour venir nous voir, parce que notre rôle, c'est d'intervenir justement quand ce n'est pas clair. Tout début, et donc d'ouvrir les portes à des exemples d'entrepreneurs, à des alumni, à des rencontres, à des acteurs d'accompagnement et à des entrepreneurs aussi qui nous soutiennent comme Armel, qui interviennent dans des conférences de formation, dans des programmes d'accompagnement, dans des formations aussi dans le cadre du D2E.
On peut dire qu'actuellement, on sent des évolutions, des besoins. Est-ce qu'il y a des domaines où pratiquement la région, ou même plus, hein, cherche des entrepreneurs parce qu'il y a un vrai besoin, il y a une nécessité, il y a un projet d'avenir pour cette région à ce qu'il y ait des développeurs dans tel ou tel sens, hein.
Mais je pense que c'est quelque chose qui a émergé il y a quelques années déjà, puisque je dirais quand on a la chance d'avoir une richesse, on parlait des incubateurs, que ce soit Eura Technologie, Eura Santé, la Pleine Image, donc on a vraiment beaucoup de domaines où on a senti que la région portait des projets pour développer ce qui n'existait peut-être pas encore ailleurs, ou si en tout cas ça existait, c'est une richesse énorme d'avoir une concentration dans des domaines aussi variés que cela. Ça donne du coup une nouvelle culture qui a pu germer. Et Elena en parlait, je veux dire, une jeune étudiante de 20 ans, dire je suis à la fois porté par le programme Pépite. Et en même temps, je rencontre des gens de l'incubateur Eura Santé, inimaginable il y a quelques années. Donc oui, ces nouveaux projets, il y a beaucoup de start-up, il y a la French Tech, mais il y a vraiment une grosse richesse. Enfin, moi, je pense qu'on a une chance inouïe dans notre région. En tout cas.
Donc, ces pôles bien particuliers où émergent des talents et des sociétés qui parfois flambent après, en termes de cotes.
Des licornes.
par exemple. D'avoir des zones très spécialisées comme ça et d'en avoir plusieurs dans la région, ça crée aussi une sorte d'identité de la région et ça permet peut-être d'attirer des talents qui viendraient de l'extérieur.
Oui, alors je participe, je suis membre d'un jury d'un concours qui s'appelle Créasub depuis de nombreuses années. Et il y a des gens qui viennent d'autres régions et qui viennent chercher dans notre région cette richesse-là, alors, je ne vais pas dire facilité, mais cette facilitation d'aller et de pouvoir accéder à cette belle énergie. Et puis je voudrais quand même, parce que si des auditeurs nous écoutent, ils vont dire « Ah, mais moi, je n'ai pas une idée comme ça, aussi start-up. » Alors, il y a beaucoup d'applications, d'idées de nouvelles applications sur les smartphones, sur les téléphones. Et il reste quand même beaucoup de place pour les projets plus traditionnels. Reprendre une boulangerie, il y a des programmes d'accompagnement. Sabrina en parlait avec la chambre de métier, donc tout ce qui va être lié à l'artisanat. On va avoir des services, je veux dire, on a besoin de services plus classiques aussi. Moi, je suis dans je donne des conférences, j'accompagne en coaching. C'est pas forcément quelque chose de très innovant. Après, c'est de trouver sa place, de trouver sa niche, de trouver quel public. Et c'est là où l'accompagnement prend tout son sens, de dire ça, c'est ce que je veux, mais à qui je vais m'adresser, comment je vais vendre, comment je vais commercialiser, et l'importance du réseau que vous signaliez tout à l'heure.
Donc, Pépite, on va dire que ça permet d'investir dans l'avenir, c'est un peu l'idée quand même, de contribuer soit au développement, soit au rééquilibrage de certains secteurs entrepreneuriaux où il manque cruellement peut-être d'établissements qui travailleraient dans ce sens plutôt que tout faire importer de n'importe quel pays, autant les fabriquer sur place. Vous sentez aussi des tendances de ressourcer la production en France, avec des projets qui pourraient justement s'adapter à l'environnement français tel qu'il est actuellement, ou qu'il pourrait le devenir.
Oui, c'est ce que je citais tout à l'heure dans l'économie sociale et solidaire, dans toute la prise en considération que les choses qu'on fait venir de l'autre bout de la planète, c'est un coût pas forcément financier, mais surtout un coût environnemental, fait que des choses qui étaient fabriquées au bout du monde ou qui étaient développées ailleurs, eh bien cette prise de conscience fait que effectivement on se rend compte qu'on peut le faire, on peut faire revenir une richesse locale, on peut ramener des projets qui il y a encore quelques années on en aurait peut-être plus vu l'émergence, mais aujourd'hui ils refont surface parce que il y a une autre prise de conscience derrière la valeur marchande, il y a aussi cette valeur environnementale.
Voilà, donc Pépite, on va peut-être conclure un peu, mais sachant qu'on se reverra peut-être l'année prochaine, hein, puisque vous avez prévu tous les ans une semaine spéciale.
La semaine créative a lieu tous les ans, au mois de novembre.
Voilà, et vous voyez une évolution d'une année sur l'autre, sur les thématiques, sur les intérêts des uns et des autres, sur aussi les possibilités que vous avez à disposition, peut-être que vous pouvez en parler.
On innove tous les ans, on essaye de s'adapter aux besoins aussi des étudiants, à ce qui les inspire. On essaye de créer aussi des programmes de sensibilisation plutôt orientés sur la gamification. On organise un challenge, par exemple, qui est orienté sur l'entrepreneuriat dans la culture durable pendant la semaine créative 2024, qui est orienté. Donc, c'est un challenge de 2 jours qui aura lieu justement chez l'un de nos partenaires à Pleine Image. À Tourcoing, donc où on a l'incubateur qui est spécialisé dans l'image, l'audiovisuel, les jeux vidéo. C'est un exemple type d'un programme innovant, créatif pour inspirer, se tester à l'entrepreneuriat dans les métiers, en tout cas dans les secteurs de l'industrie culturelle et créative. Donc, on parlait justement de la richesse de la région et des différents types d'entrepreneuriat. Entreprendre dans les secteurs de la culture, c'est possible aussi. Et puis, on a des serious games, des jeux de découverte de l'entrepreneuriat, des jeux pédagogiques. On a des rencontres conviviales type after work, etc. Donc, on a des événements de plus en plus sympas, je dirais, et où on retrouve plein d'étudiants curieux qui ont envie de partager aussi, qui ont envie de découvrir. Et cette semaine a lieu tous les ans pour inspirer, donner envie et ouvrir les portes de Pépites et de l'entrepreneuriat.
Alors, cette émission donc spéciale Univox est un programme de Radio Campus, mais relayé par l'ensemble des radios Campus de France. Donc aussi montrer d'une région à l'autre ses spécificités et peut-être la mobilité qu'on peut imaginer au travers des projets. On peut peut-être trouver dans une autre région un potentiel plus important que dans une autre. Et l'idée de la circulation à la fois de cette émission, mais aussi des compétences et des projets, de les mettre en valeur en fonction des territoires, ça peut jouer.
Ce qu'il faut rappeler, c'est que quel que soit le projet entrepreneurial, l'étudiant entrepreneur, et quel que soit son pépite de rattachement, c'est important de rappeler que Pépite, c'est un réseau national et qu'un étudiant qui entreprend à Lille, qui est rattaché à Pépite Lille, peut aussi bien demain choisir d'évoluer parce que son projet de formation ou projet entrepreneurial ou même projet de vie a évolué, qui peut aussi aller vers un autre Pépite de France. C'est un réseau de 30 Pépites. Et que l'entrepreneur, du coup, a cette facilité aussi de changer de région et de continuer à bénéficier d'un accompagnement Pépite dans une autre région.
Voilà, donc on peut imaginer que sur votre site, vous avez tous les dispositifs qui sont décrits et qui permettent aux gens de s'y référer. Il suffit de chercher sur un moteur de recherche Pépite Hauts-de-France et vous y êtes tout de suite. Hein. J'imagine que dans les autres régions, c'est pareil.
Alors, on a une plateforme nationale, je le précise vraiment, pour trouver toutes les informations sur les événements de Pépite, il faut aller sur Pépite Easy, donc IZY, Lille, Hauts-de-France. Et si on tape Pépite Easy Lille, on va retrouver vraiment notre plateforme web, donc, qui va répertorier tous nos événements, les appels à candidature et tout ce qu'on organise pour les étudiants du territoire de Pépite Lille. Au niveau France, c'est Pépite France, donc Pépite Easy aussi, qui permet d'accéder aux différents agendas de tous les 30 pépites. Donc, d'où l'importance de vraiment de préciser Pépite Easy Lille lorsqu'on veut trouver le programme qui est proposé sur son territoire. Autrement, voilà, on a la possibilité aussi de trouver tous les agendas des 30 autres pépites. Et on a aussi, on est bien sûr présent sur Instagram, on a une page Pépite Lille sur Instagram et sur LinkedIn.
Voilà, Pépite Easy, c'est IZY à la fin, on va le préciser. Je vous souhaite bien sûr une très belle semaine et puis d'avoir beaucoup de succès et d'accompagner le maximum de jeunes qui ont des idées de projet et peut-être de fédérer aussi ceux qui peuvent les épauler, ce qui est bien sûr très important. Merci à toutes pour ces précisions et cet encouragement à aller de l'avant.
Univox.
Une réalisation de René Lavergne de Radio Campus Lille. Pour Radio Campus France.